soleil du monde, Jésus, sois exalté. Par toi, la grâce abonde sur notre humanité. Gloire au Dieu très haut. Gloire au Dieu très haut. Gloire au Dieu très haut. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux aujourd'hui de venir en ta présence, dans ce jour qui est particulier. Nous savons, Seigneur, que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais cependant, c'est pour nous l'occasion de tourner nos regards vers Jésus, vers celui qui a fait un sacrifice incroyable, un sacrifice dont nous n'arrivons pas à mesurer la portée, l'immensité. Seigneur, nous sommes conscients que le sacrifice de Jésus n'a pas commencé à la croix, mais il a commencé au jour où dans le ciel, Jésus a disparu pour venir sur cette terre. Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons encore que nous avons besoin d'un Sauveur. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ton pardon. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous savons que sans Sauveur, nous mourrons. Mais grâce à ce que Jésus a fait, nous avons l'espérance, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Seigneur, nous te remercions de ce que Jésus a accepté d'accomplir ce sacrifice immense pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, en repensant à cet événement qui s'est déroulé il y a plus de 2000 ans, Seigneur, nous voulons penser qu'il est temps pour chacun d'entre nous de recevoir encore et encore Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Nous reconnaissons qu'il revient bientôt. Les signes dans le monde nous le montrent. Et c'est la raison pour laquelle chaque Noël est pour nous une occasion particulière, parce que c'est chaque fois une année qui nous rapproche du moment où nous verrons Jésus, non pas comme un faible enfant dans une crèche, mais nous le verrons venir avec puissance et une grande gloire. Seigneur, trouvons-nous des cœurs bien disposés pour te ressembler, bien disposés pour nous préparer à ton retour, bien disposés aujourd'hui encore pour te recevoir. Et de nos cœurs, Seigneur, s'élève cette prière secrète et personnelle, te disant qu'aujourd'hui encore, nous te recevons comme notre Sauveur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui aujourd'hui sont dans la peine, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans la souffrance. Et Seigneur, nous voulons te demander que, dans ta bonté, tu soulèves le fardeau, tu apaises la souffrance, que Seigneur, tu apportes le pardon, que tu apportes aussi la paix, cette paix dont nous avons tant besoin dans nos cœurs, dans le monde. Apporte, Seigneur, cette paix, et que, en nous préparant à ton retour, nous soyons impatients de te voir réaliser pleinement toutes tes promesses. Ce matin, dans ta bonté, fais-nous sentir ta présence, donne-nous ta paix, remplis-nous de la joie et de l'amour de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen. À lui nos hommages. Dans notre esclavage, Il vient pour nous rendre la liberté. Pour le chanter, réveille-toi, mon âme. Que tout en moi proclame sa charité. Que tout en moi proclame sa charité. Que tout en moi proclame sa charité. Depuis les premières pages de l'Écriture, un cri retentit dans tout l'Ancien Testament. En fait, c'est une prière, c'est une invocation, c'est un appel à la délivrance. Ce cri qui retentit au travers de tout l'Ancien Testament, sous une forme ou sous une autre, est clairement exprimé dans le livre de la Genèse par Isaac. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, il nous est rapporté que Dieu a demandé à Abraham une chose incroyable. Il lui a demandé de sacrifier son propre fils, le fils de la promesse, le fils impossible parce qu'il était trop âgé pour en avoir un. Eh bien, ce fils-là, Isaac, ton fils unique, va le sacrifier. Et vous connaissez l'histoire. Abraham s'en va avec son fils, ses serviteurs. Et alors que Abraham se trouve seul avec son fils dans la dernière partie du chemin, Isaac s'arrête et dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham reprit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Voilà le cri qui retentit dans tout l'Ancien Testament. « Où est l'agneau ?» Et Abraham répond par une parole prophétique extraordinaire, « L'Éternel pourvoira. » Mais ce cri retentit depuis la sortie du Jardin d'Éden. Souvenez-vous, Jésus lui-même va enseigner à Adam et Ève à faire les sacrifices. Les sacrifices de ces animaux innocents qui vont subir la peine du péché que eux ont commis. Une parabole vivante dans laquelle ils vont prendre part. Mais chaque fois qu'un sacrifice est offert, la question est là, où est l'agneau, le vrai, non pas ce mouton qu'on a pris dans le troupeau, mais l'agneau, celui qui véritablement va donner le pardon. Où est l'agneau? Lorsque, plus tard, Dieu va enseigner comment célébrer la première fête de Pâques, au moment justement de la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Il faudra choisir un agneau, et il était dit un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Ils vont tous sacrifier cet agneau, ils vont en manger la chair, ils vont mettre son sang sur les linteaux des portes. Mais où est l'agneau, le vrai, celui qui procure le pardon et la délivrance pour de bon? Où est l'agneau? Cette question, curieusement, un jour, c'est pratiquement le diable qui va la poser. Vous vous souvenez? Moïse va monter sur la montagne à l'âge de 120 ans, et là, il va mourir. Et puis, Jésus va venir pour le ressusciter. Dans le livre de Jude, il nous est dit: Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, le diable intervient, Moïse est mort. Et puisqu'il est mort, le diable prétend que Moïse lui appartient. Et il dispute le corps de Moïse à Jésus parce qu'il prétend que Jésus n'a pas le droit de le ressusciter. Et c'est vrai en partie, parce que le sacrifice n'a pas encore été fait. C'est vrai en partie parce que la rançon, si l'on peut dire, n'a pas encore été payée. C'est vrai en partie parce que la victoire n'a pas encore été acquise. Et le diable répond, « Il est à moi. » En fait, cette contestation du diable, c'est sa manière de dire, et l'agneau alors, où est-il? Où est l'agneau? Plus tard, la question va ressortir encore. Lorsque David, après avoir commis le péché que les Écritures rapportent, David va composer ce psaume extraordinaire, le psaume 51, un psaume de repentance. Et David reconnaît que les sacrifices, ce ne sont que des images dans lesquelles nous mettons notre foi et qui portent nos regards vers l'avenir. David écrivait dans ce psaume, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » David, ayant commis sa faute, reconnaît qu'il pourrait faire des tonnes de sacrifices. Il en a les moyens. Dieu n'en a pas besoin. Il veut le sacrifice de son cœur, de ses mauvais désirs. Mais là encore, David reconnaît que ce n'est pas les agneaux qu'on sacrifie tous les jours qui apportent le pardon. Alors, où est l'agneau? Où est l'agneau? Ésaïe, dans son livre, va aussi poser cette question. Dans Ésaïe 53, vous connaissez ce passage. Il est dit « Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple ?» Ésaïe, lui aussi, reconnaît qu'il y a là le symbole de l'agneau, mais l'agneau, le vrai, où est-il? Où est l'agneau? À l'époque d'Ésaïe, il faut attendre encore 750 ans avant que l'agneau vienne. Et puis, plus tard, Daniel. Daniel reçoit de Dieu des visions. Et dans ces visions, il est question de celui qu'on attend. Vous vous souvenez, dans le 9e chapitre de son livre, Daniel rapporte sa prière d'intercession, où il demande à Dieu, « Seigneur, pardonne, pardonne. » Il est encore en prière quand Dieu lui montre ce qu'il veut lui faire connaître. Et Daniel rapporte ceci, « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Mais alors, cette prophétie, quand donc est-elle prête à se réaliser? Où est l'agneau, le Messie dont tu me parles, Seigneur? Où est-il? Où est l'agneau? Cette question retentit tout au travers de l'Ancien Testament, sous une forme, sous une autre, au travers des situations dramatiques que la Bible présente dans lesquelles les hommes reconnaissent leur faiblesse, leur insuffisance, reconnaissent leur état de perdu. Où est l'agneau? Cette question va même déborder de l'Ancien Testament. Nous la retrouvons même dans le Nouveau, au début. Vous vous souvenez ces rois mages qui viennent de Babylone? Ils viennent à Jérusalem. Eux aussi vont poser la question à leur manière. Et ils vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Eux aussi, avec le peu de connaissances qu'ils avaient, ils viennent et finalement ils posent eux aussi cette question. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Aujourd'hui, je crois que cette question retentit encore dans le monde. Cette question retentit par l'inquiétude de tous ceux qui ne voient pas d'issue aux problèmes du monde d'aujourd'hui. Cette question, nous la retrouvons dans le cri de tous ceux qui souffrent aujourd'hui, d'une souffrance physique ou d'une souffrance morale. Cette question, nous la retrouvons dans l'angoisse de tous ceux qui cherchent le pardon d'une manière ou d'une autre, qui cherchent à se libérer de la culpabilité et du poids du péché et qui n'y arrivent pas encore parce que Jésus n'est pas apparu à leurs yeux comme l'agneau. Où est l'agneau? Où est l'agneau? c'est bien lui, le Christ, le roi, chanté par tous les anges saints. En lui, placez votre foi, à vos douleurs, il met fin. L'Ancien Testament retentit de cette question « Où est l'agneau ?» et le Nouveau retentit de la réponse. Cette réponse, Jean-Baptiste l'a donnée d'une façon claire. Vous vous souvenez ? Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain et voit venir un jour à lui Jésus. Et devant tout le monde, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce message, c'est le message du Nouveau Testament. C'est la réponse à cette question qui avait traversé les millénaires et qui arrive jusqu'au moment où, enfin, Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant Jean-Baptiste, Dieu lui-même en avait donné la réponse à cette question en envoyant son ange. Son ange avait parlé à Joseph, vous vous en souvenez, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, il nous est rapporté ce que cet ange a dit concernant Marie. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu lui-même a donné cette réponse encore d'une façon claire et publique lorsque Jésus a été baptisé. Au moment où il est sorti de l'eau, vous vous souvenez, l'Évangile rapporte qu'une voix s'est fait entendre et il est dit dans l'Évangile « Une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Curieusement, là encore, et c'est ironique d'ailleurs, les démons vont dire avant le peuple de Dieu que l'agneau est venu. Vous vous souvenez, Jésus va dans la synagogue un jour de sabbat. Il trouve là un homme qui est animé d'esprit démoniaque. Et cet homme démoniaque va s'adresser à Jésus. Dans l'Évangile selon Luc, il est rapporté ce que cet homme va lui dire. Au verset 34, il est écrit « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Incroyable, ce sont les démons qui disent avant les gens du peuple de Dieu « Voici l'agneau de Dieu. » Et puis, les non-croyants, les païens, ceux qui ne savaient pas, sont encore ceux qui vont dire « Voici l'agneau ». Vous vous souvenez, au moment de la croix, il y a là un centenier avec ses soldats. Et le texte nous dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, que ce centenier et les soldats qui étaient avec lui vont s'exclamer « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Les apôtres vont aussi proclamer cette réponse du Nouveau Testament. On va les accuser de toutes sortes de choses. On va même vouloir les emprisonner parce qu'ils ont fait du bien. On leur demande des comptes sur des guérisons qu'ils font. Et vous vous souvenez, dans le livre des Actes, au chapitre 4, Pierre et Jean vont parler Et les apôtres vont donner leur témoignage. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, se trouve inscrite cette réponse que les apôtres vont donner. Il est dit, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Publiquement, ils vont donner cette réponse. Cette réponse à la question posée depuis toujours, où est l'agneau? Il est là, l'agneau. C'est Jésus qui est venu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, le disciple bien-aimé, celui qui vivra le plus longtemps, va lui aussi, toute sa vie, donner cette réponse. Dans la première épître de Jean, l'évangéliste Jean va rappeler qui est l'agneau. Il écrit, « Cet amour consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Où est l'agneau? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus est venu, prenant le monde entier par surprise, par la manière par laquelle il est venu. On n'attendait pas un Jésus bébé enfant. Et pourtant, c'est par lui que le monde peut être sauvé. Cette réponse à la question de toujours, elle a besoin aujourd'hui encore d'être proclamée et d'être entendue. Est-ce que nous avons donné personnellement à cette question une réponse? Est-ce que pour nous, Jésus-Christ est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte mon péché? Aujourd'hui, je crois, cette réponse a besoin d'être entendue. Est-ce que nous sommes prêts aussi et capables de dire avec assurance, comme le faisaient les apôtres, que Jésus est véritablement l'agneau de Dieu qui peut ôter non seulement les péchés du monde, mais aussi les vôtres? Est-ce que nous sommes capables, ayant reçu Jésus comme notre Sauveur, de dire aux autres, « Il est l'agneau de Dieu » Est-ce que nous sommes capables de donner ce message aux autres jusqu'à ce qu'un dernier cri retentisse dans l'univers ? Gloire au Seigneur, il règne en roi. Mon chant s'élève à lui. Verte campagne, colline et plaine, joignez-vous au concert. Joignez-vous au concert. Joignez-vous tous à ce concert. Le Nouveau Testament a donné cette réponse, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais le Nouveau Testament ne se termine pas avec cela. Il va plus loin encore. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, se trouve ce passage que vous connaissez. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. » Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Depuis des siècles retentit dans le monde cette question, « Où est l'agneau ?» Et puis le Nouveau Testament donne la réponse, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais l'Apocalypse se termine en disant, « Digne est l'agneau. » Digne est l'agneau de recevoir louange, adoration. Un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, il nous est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Le livre de l'Apocalypse, les Saintes Écritures se terminent avec ce cri de louange et de victoire. Digne est l'agneau de recevoir notre adoration et notre louange. Noël n'est probablement pour beaucoup de gens pas ce qu'ils pensent. Noël, ce n'est pas faire les magasins pendant un mois pour trouver les cadeaux dont on a besoin. Noël, ce n'est pas même un bon repas, quand bien même il est pris en famille. Noël, ce n'est pas une décoration éblouissante, des petites lumières qui scintillent, des guirlandes, des sapins, des boules, des rubans. Oui, je sais, Noël, c'est tout cela quand même, mais pour celui qui a répondu « Voici l'agneau de Dieu », Noël, c'est plus que ça. Pour celui qui a reçu l'agneau de Dieu comme son sauveur, Noël, c'est répondre à cette question. Où est l'agneau ? Noël, c'est annoncer au monde « Voici l'agneau de Dieu ». Noël, c'est être capable de donner cette réponse au monde jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que lui seul est digne de recevoir la gloire, la louange, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Célébrer Noël, c'est dire au monde que Jésus revient bientôt. C'est dire au monde que l'agneau revient bientôt. Et pour ceux qui ne savent pas encore qu'il y a dans cet agneau une espérance, nous sommes là pour leur dire « Relevez vos têtes, parce que la délivrance approche. » Amen. Annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini.
Sa face vers toi et qu'il te donne la paix.